Bonjour à chacune et à chacun. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir ce matin à entendre nos musiciens et à entendre nos voix. Et beaucoup de joie à avoir des musiciens comme ça qui nous conduisent dans cette interprétation de ces différents chants et de ces différentes prières. Mais je me disais aussi à quel point le Seigneur doit être réjoui lui-même, peut-être pas tant par nos voix, parce qu'il a dû entendre de plus belles choses encore, quoique, mais probablement parce qu'il a entendu nos cœurs. Et je crois que ce que vous aviez sur le cœur ce matin, lorsque vous chantiez, que ce soit une exubérance et une joie et une reconnaissance envers le Seigneur, ou que ce soit une prière, une aspiration, le Seigneur a entendu cela, puisqu'il nous a dit que même les soupirs de notre cœur, Dieu les entend. Dieu tend l'oreille et il entend toutes les façons par lesquelles nous nous exprimons. Alors ce matin, j'espère que vous puissiez être rassurés et certains que le Seigneur a entendu votre cœur et a entendu vos prières et vos louanges. Je voudrais ce matin poursuivre dans ce thème que nous avions commencé sur la conquête dans notre vie. Vous savez qu'on a démarré, ou on avait démarré un petit peu sur tout ce que Dieu nous promet dans l'Écriture. Alors, on n'a pas passé en revue les milliers de promesses qu'il peut y avoir, mais on a regardé un petit peu les grandes catégories. Et lorsque nous avions fini avec le conseil, on s'est dit, mais c'est absolument formidable, mais comment est-ce que nous pouvons ensuite nous les approprier en tant que chrétiens et vivre de ces promesses au jour le jour? Et comment est-ce qu'elles peuvent devenir réalité? Et c'est là où nous avons décidé de prendre appui sur le livre de Josué, qui lui est un livre qui parle dans un sens de la conquête de la vie, qui parle de la conquête du pays de Canaan. Et nous nous sommes dit, tiens, très bien, notre vie en tant que chrétien, ce n'est pas simplement nous sommes sauvés et puis on appuie sur la pause et on attend que le Seigneur revienne, mais le jour où nous sommes devenus ses enfants, c'est là où tout a démarré. Et dès aujourd'hui, le Seigneur entend faire une œuvre dans notre vie. Et donc ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte que vous connaissez certainement. Il est un petit peu long, mais ça fait rien, on va quand même le lire. C'est celui dans le livre de Josué, au chapitre 6 et au chapitre 7, sur la conquête de Jéricho et la défaite à Aï. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Et quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Et alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appela les prêtres et leur dit, portez l'arche de l'Alliance, et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze, en fer, seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta contre la ville, dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction en le passant au fil de l'épée. tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit « Montez, explorez le pays ». Ces hommes montèrent, explorèrent Haï, et de retour vers Josué, ils lui dirent « Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. » Ainsi, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Les habitants d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Sherabim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple ? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir ? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis ? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? » L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné ? Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple, et tu leur donneras « Consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin par tribu. » Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan. Le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille. Puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Josué se leva de bon matin. Il fit approcher Israël par tribu et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda et le clan de Zérak fut désigné. Il fit approcher le clan de Zérak, famille par famille, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille de Zabdi, homme par homme, et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. » Josué envoya des hommes qui coururent à la tente, et les objets étaient bien cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était bien dessous. Ils les prirent dans la tente, les apportèrent à Josué et à tous les Israélites, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, « Pourquoi as-tu causé notre malheur ? L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. » Et tout Israël lapida Akan. On les brûla au feu, on les lapida, et on l'éleva sur Akan, un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère, et c'est à cause de cet événement qu'on a appelé jusqu'à ce jour cet endroit vallée d'accord. J'avais envie de m'arrêter avant le verset 24. Parce que ce qui se passe après le 24 nous pèse, nous fait du mal. On aurait voulu que le Seigneur puisse pardonner quand Achan a reconnu son péché. Mais je suis allé jusqu'au bout parce que la Bible va jusqu'au bout et elle nous dit, et elle nous fait comprendre en fait que tout ce qui va se passer pour la conquête du territoire de Canaan va dépendre d'une seule chose toute simple, comme dans cette histoire. Victoire ou défaite dépendent d'une seule chose, c'est de l'obéissance du peuple de Dieu à sa parole. Et là, je vois tous les visages qui font « Ouh, il va nous parler de l'obéissance. » Mais quelque part, Josué, comme Moïse, comme d'autres responsables du peuple d'Israël après, ce seront des hommes qui, avant toute chose, sont des personnes qui seront les porte-paroles de l'Éternel, qui transmettront sa parole au peuple et qui demanderont au peuple d'obéir à cette parole. Et il est ainsi aussi, me semble-t-il, de toute notre vie en tant que chrétien. Tous les progrès que nous pouvons faire dans notre vie de chrétien, tout ce qu'on appelle la sanctification, la régénération, dépendent fondamentalement de notre capacité à obéir la parole de Dieu. Et là, je vous vois encore faire plus la grimace. Parce que qu'on le veuille ou non, que vous partiez du livre de la Genèse, que vous alliez jusqu'à l'Apocalypse, dans aucun livre, est-ce que vous ne pourrez éviter ce thème fondamental de la vie du chrétien ou du croyant dans l'Écriture, c'est que la relation qu'il entretient avec Dieu s'articule au jour le jour dans sa capacité à obéir à la parole de Dieu. Et oui, notre première réaction est celle de recul, de gêne, voire même nous allons opposer cette idée. Et nous trouverons plein de raisons dans notre tête pour dire « oui, mais il y a plus, il y a autre chose ». Et ce qui est fascinant lorsque je préparais cette prédication, c'est que j'ai lu un petit peu quelques sites de psychologie, vous savez, pour les gens qui débutent comme moi en psycho. Puis j'ai regardé, j'ai dit « qu'est-ce que vous dites à propos de l'obéissance ?» C'est quand même vachement intéressant de voir que la plupart du temps, l'obéissance, c'est quelque chose qu'on dit « oui, mais enfin, il faut aller jusqu'à un point ». Après, il faut pouvoir penser par soi-même. Après, il faut pouvoir être indépendant. Et après, si on est un vrai manager, ben on ne donne pas simplement des ordres qui doivent être exécutés. Il faut qu'on arrive à faire naître ça dans son équipe pour que ça vienne d'eux, etc., etc. Et apparemment, une étude a été faite aux États-Unis sur un petit peu ce que pensaient les parents de l'obéissance. Et ce qui est fascinant de voir entre les gens qui sont pour exiger de leurs enfants l'obéissance et ceux qui, de l'autre côté, sont pour les faire grandir un petit peu indépendamment et se faire leur propre idée. Ce qui distingue principalement ces deux catégories de personnes, c'est le degré de foi ou de religion qu'ils ont dans leur vie. Plus les gens sont religieux, plus l'obéissance aura une importance dans la pédagogie. Moins les personnes sont religieuses, moins elles vont être exigeantes en matière d'obéissance. Et donc ici, nous faisons face à quelque chose qui gêne, qui crée des problèmes dans notre vie, c'est que l'obéissance n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement ou que nous percevons de façon positive. Souvent, l'obéissance va être perçue plutôt comme un service, une servitude, une soumission. Fais ça et tais-toi. On va l'opposer à l'idée de penser soi-même, d'être autonome, de pouvoir avoir des avis qui nous sont propres, de pouvoir être mature et adulte, de nous comporter dans la vie comme quelqu'un d'adulte. Et donc l'obéissance ne va pas nécessairement avec ce genre de choses-là. Et puis peut-être est-ce que notre théologie est un tout petit peu foireuse et on se dit que l'obéissance, ça relève de la loi, tandis que dans la grâce, ben, on est pardonné, puis on est libre, et puis voilà quoi. Dieu nous pardonne lorsque les choses ne vont pas bien. Et puis, en fin de compte, Dieu, il ne s'est pas rendu service non plus, parce qu'il nous a dit quand même que toute la loi a été résumée dans deux principes fondamentaux, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Moralité, qu'est-ce qui relève de la volonté de Dieu et qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire ? Ben, il suffit de vivre selon deux principes, j'aime Dieu, j'aime mon prochain et je fais ce que je veux. Puis une dernière chose, c'est que Dieu, lui, il a écrit et il a parlé il y a quand même longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, on ne sait pas trop comment faire avec mon micro, voilà. Et donc il y a des situations pour lesquelles aujourd'hui, en matière d'éthique ou en matière de comportement, on ne sait pas exactement comment il faudrait qu'on se comporte. Et la Bible ne dit pas tout. Donc on se trouve dans une position, lorsqu'on réfléchit à l'obéissance, on n'a jamais une réponse claire parce qu'il y a toutes sortes d'explications qu'il faut donner. Et on cherche souvent à se dire que c'est moins important qu'on ne le pense. Alors cette position de gêne, elle existe et je pense que vous la ressentez à bien des égards aussi lorsqu'on vous dit est-ce que tu obéis à la parole de Dieu ? Est-ce qu'aujourd'hui tu obéis à la parole de Dieu ? Enfin bon, non. Voilà. Mais le problème, c'est que l'obéissance, est, comme je l'ai dit, elle est omniprésente dans l'Écriture. Et si on lit l'Écriture, on ne peut pas échapper au fait que l'obéissance, l'appel à l'obéissance est toujours là. Et c'était vrai sous l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu il a appelé son peuple, il dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, et garder, ça signifie mettre en pratique et vivre par ça, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. » Ensuite, Jésus, lui, l'exemple parfait, l'homme que nous essayons de suivre, l'exemple que nous essayons de suivre, mais sa vie a été fondamentalement caractérisée par sa lutte et sa persévérance à obéir à son Père. Au point où nous avons cette phrase un tout petit peu bizarre ou qui nous interpelle par moments dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que bien qu'étant le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et à d'autres reprises dans les évangiles, il dira que ma nourriture, c'est-à-dire ce dont il vit tous les jours, c'est de faire la volonté de son Père. Ainsi donc, on ne peut pas échapper au fait que même dans la Nouvelle Alliance, celle où nous sommes sous la grâce, l'obéissance est une caractéristique de cette alliance. Elle est fondamentalement une responsabilité que nous avons en tant que chrétiens. Notre sanctification, notre progrès dans la vie se fera aussi et par le moyen de l'obéissance. Alors nous pensons souvent que c'est en priant, puis l'Esprit qui travaille en nous, etc., et qui fait sa petite cuisine dans notre cœur et qui nous transforme, etc. et tout. Tout à fait vrai. Mais nous sommes appelés à obéir, à répondre à cette voix et à obéir. Et le fruit de la foi, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, il nous est dit que c'est l'obéissance. L'apôtre Paul, il va utiliser même un langage un peu bizarre pour vraiment faire comprendre ça à ses lecteurs. Dans l'Épître aux Romains, il dit « Vous êtes devenus esclaves de la justice ». Il dit « Je parle ici à la manière des hommes, bien sûr, à cause de votre faiblesse naturelle. Mais de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » Pierre, lui, Jacques, lui, il n'ira pas par quatre chemins, puis il dira tout simplement, « Allez, vas-y, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un d'entre nous de croire et d'avoir la foi si on n'a pas d'œuvre ?» Pas de détour, c'est tout simple. Comment est-ce qu'il est possible de raisonner à un moment qu'on peut avoir la foi et être sauvé si cela n'entraîne pas d'une façon ou d'une autre des œuvres qui sont en conformité avec la justice de Dieu et la vocation qu'il nous adresse. Et c'est pour ça qu'il dira un peu plus loin, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. Ainsi, l'obéissance, ce n'est pas simplement sous le régime des œuvres qu'elle était importante, mais aussi sous le régime de la grâce, nous sommes appelés à produire des œuvres en obéissance au Seigneur. Et il y aura toutes sortes d'autres thèmes dans le Nouveau Testament qui se rapprocheront de ça, en particulier de celui où nous sommes appelés à imiter le Seigneur. Lorsqu'il dit que nous sommes appelés à imiter le Seigneur, c'est-à-dire à imiter aussi son obéissance et sa façon de se comporter. Qu'est-ce que nous pourrions imiter d'autre ? Être crucifié et ressuscité ? Non. Mais imiter sa vie, imiter son amour, imiter les actions qu'il a faites. Et puis alors, il y a une chose qui est évidente aussi lorsque vous lisez, que ce soit Paul, que vous, les autres apôtres dans le livre des Actes, mais à plus d'une reprise, il est bien mis en évidence, c'est que l'obéissance à la volonté de Dieu est plus importante que notre vie même. Dieu ne nous laisse même pas le choix d'arriver à un moment où on dit, bon, ben, d'accord, si c'est une question de vie ou de mort, tu fais ce que tu veux, tu t'en sors, tout ce qui compte, c'est que tu te sauves. Et là, nous avons des textes qui sont directs, mais qui se recoupent. Dans Actes 4, Pierre et Jean répondirent aux autorités religieuses, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu ? Jugez vous-même. Quant à nous ne pouvons ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Et là, ils étaient prêts à encourir toutes les conséquences que ça pouvait éventuellement avoir. Et Paul lui-même dira à ses disciples, quoi, ses compagnons, « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Donc l'obéissance à la parole va même au-delà de la valeur de notre propre vie. C'est exigeant, hein ? Extrêmement exigeant. Mais en plus, l'obéissance, pour simplement enfoncer le clou, si jamais je n'avais pas été assez clair, hein, l'obéissance fait partie du message que nous sommes appelés à annoncer. Et lorsque nous prenons ce verset de Matthieu 28, là où Jésus, c'est une de ses dernières paroles à ses disciples, où il les envoie, il leur dit d'aller et d'annoncer sa parole, de baptiser les chrétiens et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi donc, le message serait tronqué si nous ne prêchions que la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui sauve les hommes, mais si nous ne persévérions pas dans cet enseignement pour montrer et instruire dans ce qu'est la volonté de Dieu, afin que les nouveaux disciples mettent cela en pratique. Chers amis, le message de l'Évangile aujourd'hui implique et incorpore l'appel à l'obéissance. Et pas simplement le pardon de Dieu qui efface toute chose d'un coup d'éponge. Oui, c'est ça. Mais s'ajoute à cela l'appel à l'obéissance. Puis le dernier point peut-être pour, ou deux derniers points, pour aussi enfoncer encore ce coup, parce que pour moi ça a été quand même par une révélation à préparer ça, c'est que Paul, dans l'Épître aux Romains, et il reprendra ça aussi dans l'Épître aux Corinthiens, il dira en fait notre histoire a basculé deux fois. Et ces deux points où ça a basculé, c'était une question d'obéissance de deux hommes devant la volonté de Dieu. Au jardin d'Éden, un homme a péché, a désobéi. Il a entraîné toute l'humanité. À la croix, il a sauvé toute l'humanité. Et Paul ira et dira de façon toute simple, par un seul homme et sa désobéissance, la mort est entrée dans ce monde et a affecté tout le monde. Il dit, mais par un autre homme qui lui a obéi jusqu'au bout. Notre histoire a basculé de nouveau et nous permet d'être sauvés. Mais ce qui m'a frappé encore plus lorsque je regardais un petit peu l'obéissance comme ça dans l'Écriture, c'est que comme il y a 15, au début du mois, lorsque nous parlions de la bénédiction, et la bénédiction est déjà présente dans la création, mais figurez-vous que l'obéissance est déjà dans la création. L'obéissance n'est pas une résultante du péché. L'obéissance est constitutive de la création que le Seigneur a faite, belle et parfaite. Parce que qu'est-ce qu'il va dire aux animaux ? Il va dire aux animaux, vous savez quoi ? Reproduisez-vous et multipliez. Il donne un ordre. Aux hommes, il va dire, reproduisez-vous et multipliez et dominez sur la création. Dieu est actif dans sa création. Sa parole est active non seulement pour faire advenir les choses, mais aussi pour donner une vocation, donner une raison d'être, adresser un appel. Et dans notre création, nous recevons un appel du Seigneur auquel nous sommes appelés à répondre, qui est de se multiplier et de dominer sur la création. Ce qui fait que l'obéissance, elle est dans l'état le plus pur de ce que Dieu a voulu, elle est présente. Elle ne résulte pas de cette opposition entre Dieu et les hommes, entre le Créateur et la créature, entre le plus fort et le plus faible, entre le pur et l'impur, entre le saint et le malsain. Ce n'est pas à cause de cette opposition. Mais l'obéissance appartient à la perfection de ce que Dieu a fait et veut. Et c'est là où ce matin, j'aimerais changer notre optique un petit peu sur comment nous voyons l'obéissance. Et j'aimerais que nous fassions dans un sens un peu violence, comme il y a 15 jours ou 3 semaines, lorsqu'on a regardé cette caractéristique de Dieu, Dieu qui est un Dieu jaloux dans l'étude biblique. A priori, toute notre pensée, toute notre tête nous oppose à ces concepts. Au plus profond de nous-mêmes, nous résistons à ces notions. Et l'obéissance, même avec tout ce que je vais vous dire, même si j'ai raison parce que c'est l'Écriture qui parle comme ça, ça ne veut pas dire que j'ai nécessairement transformé votre attitude vis-à-vis de l'obéissance et que vous allez sortir et obéir le Seigneur de A à Z. Et j'ai buté là-dessus. J'ai buté là-dessus. Et quelque part, il faut qu'on arrive à s'arracher à toutes nos pensées immédiates, spontané vis-à-vis de l'obéissance, pour nous dire, très bien, Seigneur, l'obéissance joue un rôle pivot dans ma relation avec toi, mais il faut que tu m'aides encore. Il faut que tu m'aides encore. Et c'est là où je me suis rendu compte que ma conception de l'obéissance était extrêmement étriquée. Que pour moi, c'était simplement Dieu qui disait, fais ceci, je le veux, et c'est un petit peu dans le langage du livre de Josué, tu le fais pas, je te brûle. Moi, je suis le créateur, hein, moi, je suis plus fort, donc tu files droit. C'est comme ça que je veux que les choses. Et puis, de toute façon, si tu poses des questions, je te dirai comme tous les parents, parce que. Il faut qu'on s'arrache à cette façon de voir l'obéissance. Et ce matin, j'aimerais m'attarder sur quelques petites idées, quelques dimensions importantes sur comment Dieu, lui, voit notre obéissance. Et si j'aurais pas dû écrire « nous obéissons car », j'aurais dû dire « vous obéissez car ». J'aurais voulu parler à la place de Dieu, mais ça fait rien, vous le transposez. La première des choses, c'est quelque part, nous obéissons parce qu'il est notre chef. Et là encore, je ne parle pas du sergent qui gueule dans un micro et qui demande à tout le monde d'obéir à ses ordres, etc. Mais il est notre chef de deux façons. Il est notre chef dans le sens où il est notre créateur. Et bon sang, que serait notre monde, que serait notre création, que serions-nous si notre créateur n'était pas constamment impliqué avec sa création pour l'aider, pour la soutenir, pour la sauver. Encore une fois, on l'a rappelé, mais je le répète, Dieu n'a pas simplement créé quelque chose et est parti pour simplement que ça marche tout seul. Il est constamment impliqué dans sa création, pour le bien de la création. Encore une fois, Dieu n'est pas frustré et il doit être là parce qu'il fait confiance à personne, il doit tout surveiller et puis il doit vérifier que tout le monde lui paye ses hommages. Dieu a créé pour être impliqué dans cette création, être en relation avec elle et en particulier avec nous. Et donc Dieu il dit, moi je voudrais que vous m'obéissiez parce que c'est comme ça que je vous ai constitué. Et moi je suis dans cette relation avec vous et avec ma création. Et c'est par l'obéissance et c'est par ma parole que vous allez vivre. La deuxième dimension dans laquelle Dieu est notre chef, en Jésus-Christ, il est notre sauveur. Il est celui qui a ouvert la voie de notre vie éternelle. Et pensez un petit peu à Moïse. Je ne sais pas si Moïse était le premier à traverser la mer Rouge, et le Jourdain parce qu'il est resté de côté, mais la mer Rouge. Ou est-ce que Josué était le premier à traverser le Jourdain? Je ne sais pas. Mais quelque part, le chef, on le suit aussi. Oui, on a eu des discussions sur les bergers, si les bergers c'était derrière ou devant, etc. Bon, on ne sait pas. Mais quelque part, il est aussi celui qui a initié notre salut et qui nous conduit vers la vie éternelle. Et donc, comme il est nécessaire quelquefois d'avoir des chefs, pensez un petit peu à ce qui s'est passé la semaine dernière. Si au GIGN, ils avaient tous leur idée sur comment il fallait faire pour les interventions qui ont eu lieu la semaine dernière, je ne suis pas sûr qu'ils auraient mené à bien les opérations qu'ils avaient. Je crois qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un qui a décidé qu'est-ce qu'il fallait faire, et il a dit, les mecs, on est 50, toi tu fais ça, 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 on s'arrange comme ça, on ne discute pas. Et je suis sûr qu'il n'y a pas un mec du GIGN qui a dit, moi je voudrais faire les choses différemment. Parce que les enjeux sont parfois grands. Et prenez 3 secondes pour revoir un petit peu ces vidéos dans votre tête. S'ils étaient tous rentrés à leur façon, puis ils discutent avant d'entrer, etc. et tout. Mais les enjeux étaient énormes. Et il ne faut jamais oublier, c'est que même si le Seigneur est souverain, même si nous sommes sauvés, il y a encore de grandes batailles à mener dans notre vie. Et qu'heureusement, nous avons un chef. Et Dieu, il dit ici, tu sais quoi, moi je ne suis pas en train de simplement gueuler plus fort et c'est moi le sergent. Hein. Il dit, ça j'ai fait avant Noé, je l'ai fait une fois, ça ne marche pas. Il y a d'autres façons de faire. Il dit, moi je suis dans la mouise avec vous. Mais faites-moi confiance en tant que chef. Et vous verrez où on va aller. Et si le peuple n'avait pas suivi Moïse, où est-ce qu'il serait arrivé? On n'en sait rien. Le deuxième aspect, ici, c'est que Dieu sonde notre cœur. Et là, c'est un thème qui revient dans l'Ancien Testament, mais qui aussi apparaît dans le Nouveau Testament. C'est qu'à un moment ou à un autre, Dieu, il est constamment à la poursuite de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va souvent utiliser un commandement ou la demande de l'obéissance pour nous permettre d'exprimer nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes. Ce ne sont pas des pièges que le Seigneur nous tend en disant « ben, vas-y, prouve-le que tu es de mon côté. » Mais repensez à un Abraham qui était bien installé chez lui avec son père, etc. Et, tout, et Dieu lui dit « Lève-toi, allez, barre-toi, et puis en temps et en heure, je te dirai où tu vas. » Non mais attends Seigneur, on ne peut pas être un peu plus clair là? Je veux dire, je ne suis pas tout seul à partir, hein. J'ai une famille, Et puis qui aujourd'hui, de façon sensée, se lève et s'en va, s'il n'y a pas de raison de partir. Abraham se lève et part. Et c'est là où il donne de son meilleur, parce que c'est le début de sa foi. Mais le mieux, et vous y pensez peut-être, c'est lorsque Dieu lui dit, tu sais quoi, ton fils que je t'ai donné là, Celui par qui la promesse va se réaliser, ou que j'ai dit que la promesse va se réaliser, sacrifie-le. Et là, le meilleur d'Abraham sort. S'il avait eu la trouille, si ça avait été un faucheton, si ça avait été tout autre chose que cet homme de foi, il aurait discuté avec Dieu, il aurait retourné les talons, un petit peu comme Josué qui dit à un moment, tu sais quoi Seigneur, c'est peut-être mieux qu'on reste où on était avant. Quoi. Mais Dieu a donné à l'occasion à Abraham d'exprimer le meilleur de qui il était. Et si vous regardez la vie de David, la beauté de ses chants, la beauté de sa foi sont nées aussi des épreuves dans lesquelles il était, de la fidélité qu'il a dû constamment manifester à l'égard du Seigneur. Et ici, il faut que nous regardions aussi les appels à l'obéissance dans notre vie comme cette occasion que nous avons de manifester notre amour envers le Seigneur, notre respect pour lui, notre respect pour sa parole. Et c'est là où nous donnerons le meilleur. Il est intéressant que Jacques dit à propos d'Abraham, que je retrouverai ce verset, enfin il dit que c'est ce qui a construit sa vie, c'est ce qui lui a permis de grandir, de s'affermir, l'obéissance. Et le psalmiste dira exactement la même chose. Notre obéissance est une façon d'exprimer notre amour. Et lorsque Dieu dit dans chapitre 6 du Deutéronome, il dit au peuple, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Si on n'avait pas ce premier verset qui dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », c'est encore une fois la même chose que le GIGN. Voilà exactement ce qu'on fait à tout moment. Tu t'y tiens et tu ne bouges plus et tu ne poses pas de questions. Mais le Seigneur introduit l'obéissance en disant « C'est comme ça que tu manifesteras ton amour envers moi. De toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. » Donc le Seigneur nous sonde, nous donne l'occasion de manifester notre amour envers lui, nous donne l'occasion de donner le meilleur de nous-mêmes, de montrer notre respect, de montrer l'amour que nous avons pour sa parole. Et là, vous pourrez prendre mon texte après, il y a des versets à gogo à ce sujet. Et c'est ainsi que le Seigneur, lui, dans un sens, il découvre une chose, c'est que en nous nous tournant vers lui, nous nous détournons du péché. Nous obéissons au Seigneur pour pouvoir dire tout notre amour, toute notre foi et progresser dans notre relation avec lui. Une troisième dimension de l'obéissance que nous trouvons dans l'Écriture, c'est que c'est le moyen par lequel le Seigneur bénit. Le Seigneur ne nous bénit pas simplement en remplissant notre compte en banque pendant que nous dormons le soir. Le Seigneur ne nous bénit pas seulement simplement parce que quelqu'un frappe à la porte et nous apporte quelque chose. Dans l'Écriture, il y a moult exemples qui nous montrent que l'obéissance est le canal par lequel le Seigneur déverse sa bénédiction. Et encore une fois, nous pensons peut-être et nous prions, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Moi, j'ai un texte comme ça, il faut que je vous le passe une fois. C'est que plus nous prions pour la bénédiction du Seigneur, plus nous nous exposons à ces moments de difficulté où nous allons être testés, pour pouvoir donner le meilleur de qui nous sommes. Et là, lorsqu'il répète la promesse qu'il a faite à Abraham, Dieu parle à Isaac, et il dit, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai toutes ces terres à ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham m'a obéi, qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. L'obéissance est le principal canal de la bénédiction. Ah, ça fait mal. Moi, je voudrais que Dieu me bénisse sans que j'aie trop à faire, simplement croire. Je ne regarde rien d'autre, Seigneur, je compte que sur toi. Donne-le-moi. Mais ici, nous avons La répétition, c'est que c'est dans notre comportement et dans notre obéissance que Dieu va bénir. Et il le répétera au peuple lui-même dans le livre d'Exode. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras et enseigneras aux Israélites. La bénédiction, du point de vue de Dieu, c'est le moyen qu'il utilise pour bénir. Et nous avons ces versets dans le livre de Matthieu, où il y a toutes ces béatitudes, où il dit « Bienheureux êtes-vous, heureux êtes-vous, lorsqu'on vous fera du mal, etc. et tout ». Mais ce petit mot « heureux » qui est utilisé là, « heureux » ou « béni », vous saurez, Jésus l'utilise à d'autres moments en disant « Vous serez heureux si vous savez cela, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Donc Jésus va bien au-delà encore, il dit « Vous savez un certain nombre de choses, mais la bénédiction est complète, est riche, est totale à partir du moment où vous le mettez en pratique. Donc nous obéissons à Dieu, car par elle, Dieu nous bénit. » Une dimension supplémentaire que nous trouvons dans l'Écriture, c'est que par l'obéissance, Dieu nous restaure. Restaurer pas simplement dans le sens, voilà un petit gueuleton, un petit repas, mais restaurer dans le sens de nous ramener à cette beauté, cette perfection de ce que nous devions être dans la création. Et ainsi, l'obéissance devient un moyen par lequel, et tout un processus dans notre vie, par lequel le Seigneur est en train de nous transformer pour nous ramener à la gloire que nous avions ou que nous devions avoir dans la création, mais aussi pour nous transformer de gloire en gloire à l'image de son Fils. Et c'est là où l'obéissance est un processus dans toute notre vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a permis à Abraham d'exprimer le meilleur de qui il était. Mais au fur et à mesure qu'il a avancé, il a progressé. Et je retrouve mon verset dans l'épître de Jacques où dit « Tu vois bien que la foi d'Abraham agissait avec ses œuvres et que les œuvres, et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. » Notre obéissance est donc intrinsèquement liée à notre sanctification. Et que c'est par elle, par la mise en pratique, que peu à peu, nous nous transformons et que nous sommes transformés. Et là, David ne disait pas autre chose qu'en psaume 119, il disait « Je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que tu me fais vivre. » Dans les ordres de l'Éternel, dans sa volonté, il y a la vie. Et là, je passerai encore plusieurs détails sur là où nous sommes appelés à imiter le Christ dans ce sens-là. Mais nous obéissons parce que Dieu nous restaure. Enfin, dernier point qu'on relève, c'est que Dieu nous demande parfois d'obéir parce qu'il veut nous associer à son œuvre. Combien de fois est-ce que l'apôtre Paul dit « Le Seigneur m'a dit, lève-toi et tu vas là-bas pour l'évangélisation, etc. Et » Paul aurait pu dire « Seigneur, tu sais quoi, moi je suis bien ici où je suis, ma vie est cool, on n'est pas en train de me lapider, on m'écoute, il y a une grande église, je suis bien là. » Mais quand le Seigneur lui dit « Lève-toi et pars et va ailleurs », c'est parce que le Seigneur a l'intention d'utiliser Paul à son œuvre. Et c'est là où parfois il ne faut pas passer outre ce genre de choses-là. Il faut que nous disions, mais là peut-être le Seigneur veut m'utiliser. Et le Seigneur, à un certain moment, parce qu'il est le chef, parce qu'il est le chef de son Église, parce que le projet d'évangélisation est le sien, le salut du monde est le sien, il nous associe à son œuvre. Et il nous demande. Et c'est là où ce commandement de Jésus en disant, allez, jusqu'aux extrémités de la terre. et ça se décline de multiples façons après. Mais où Dieu, il dit, moi, lorsque je vous demande d'obéir, c'est aussi pour participer à mon œuvre. Vous êtes collaborateurs avec moi. Et c'est là où il ne faut pas rechigner à ce genre de choses-là. Avons-nous mesuré le privilège de pouvoir être collaborateurs du Seigneur ? Dans la façon dont nous élevons nos enfants, la façon dont nous parlons à nos voisins, la façon dont nous nous comportons pour être un reflet de sa gloire et de sa vie en nous, parce que cela va avoir un témoignage auprès des personnes qui nous environnent. Et le Seigneur, il dit, mais si je te demande d'obéir et de faire ça, c'est parce que j'ai besoin et je veux t'utiliser dans l'œuvre qui est la mienne maintenant. Chers amis, j'avais beaucoup d'autres matières que j'aurais pu encore décliner là-dedans. Mais ce que je voulais ce matin peut-être avec ça, c'est de vous dire comment Dieu lui voit l'obéissance lorsqu'il nous demande d'obéir. Ok ? Et que nous qui sommes là toujours coincés dans pourquoi je dois obéir et ça me gêne plutôt qu'autre chose, et puis moi il y a autre chose que je voudrais faire et tout. Ici déjà Dieu il dit, mais moi je te demande d'obéir pas simplement parce que je sais mieux que toi. Je te demande d'obéir parce que c'est comme ça que je t'ai créé, c'est comme ça que je veux te restaurer, c'est comme ça que je veux te faire du bien. Et c'est comme ça que je veux qu'on collabore pour que d'autres hommes connaissent le Seigneur et soient sauvés. Alors ça prendra certainement du temps pour que cette notion d'obéissance nous devienne plus une parole de libération que plutôt une parole d'esclavage. Mais il ne faut pas oublier que plus cette parole a d'effet en nous et nous transforme, moins c'est une contrainte. Et qu'après cette parole devient ce que nous voulons et désirons. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et peu à peu, toute cette dimension quelque part où tout simplement, oui, j'écoute, j'obéis et puis je me soumets à, il y a la possibilité de progresser et où tout cela devient naturellement en nous et où nous ne subissons plus cette espèce de contrainte dans l'obéissance, mais nous obéissons de notre propre volonté. Et c'est en cela que nous trouvons la liberté. Alors, mes chers amis, je reprendrai en conclusion ce que Pierre dit dans sa deuxième lettre. Et il dit, nous considérons d'autant plus certaine la parole des prophètes. Et il dit, vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. C'est un processus, non pas de servitude, mais c'est un processus d'éclairement. C'est un processus de maturation dans notre vie. Et cette parole qui au début nous fait mal, nous pince un tout petit peu, nous choque. Le Seigneur, il dit, fais-moi confiance et tu verras. Mets-la en pratique et tu verras. Et peu à peu, elle fera son œuvre en nous. C.S. Lewis disait, l'obéissance est la voie de la liberté. Ça, c'est des littéraires qui arrivent à écrire des trucs comme ça. Mais quiconque connaissait C.S. Lewis, c'est très bien la vie spirituelle qu'il avait. Et il pouvait dire, lui, au terme de sa vie, l'obéissance est la voie de la liberté, l'humilité est la voie du plaisir, et l'unité, la voie de la personnalité. Cela va à l'encontre de ce que nous pensons, mais c'est toute la bénédiction que le Seigneur déverse dans sa parole et dans l'obéissance. Je vous invite à quelques instants de prière et je conclurai. Père éternel, ô combien nous sommes émerveillés par ta parole. Non seulement par ta parole, Seigneur, mais nous sommes émerveillés et réjouis de ta bonté, de ta douceur. Et même dans ta fermeté, Seigneur, tu manifestes ton amour envers ta création et envers les hommes. Alors Seigneur, aujourd'hui nous voulons entendre cette parole, nous voulons comprendre pourquoi tu nous demandes d'obéir. Nous voulons abandonner cette idée, Seigneur, tout simplement que nous sommes appelés à filer droit. Nous voulons abandonner, Seigneur, ces murmures de l'adversaire qui nous rappellent toujours notre servitude. Et au contraire, Seigneur, nous voulons ouvrir nos yeux sur l'appel à la liberté que tu nous adresses et qui passe par l'obéissance. Seigneur, ton Fils a accompli de très grandes choses par son obéissance et il a ouvert la voie pour nous. Alors Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui notre cœur soit apaisé. Je te prie aujourd'hui, Seigneur, que notre cœur ait de l'appétit pour faire ta volonté. Et nous prions, Seigneur, que ton esprit nous assiste, nous soutienne, nous donne de la force. Mais Seigneur, merci aussi parce que par cela tu t'intéresses tellement à nous et nous avons une grande valeur à tes yeux. Tu ne laisses aucun d'entre nous, Seigneur, sur le bord du chemin, mais tu es le chef de chacun. Tu t'intéresses, Seigneur, et tu aimes le cœur de chacun. Et tu aimes chacun. Et tu veux une relation avec chacun. Seigneur, c'est ta volonté de bénir, de déverser toutes tes promesses comme nous avons étudié. Que chacun d'entre nous, Seigneur, ait une vie en abondance et qu'ensemble, nous ayons aussi une vie en abondance. Seigneur, nous te bénissons aussi parce que tu nous associes à ton œuvre. Quel privilège, Seigneur. Quel privilège que tu utilises des vases de terre pour accomplir ton œuvre. Alors, Seigneur, nous voulons être tes ambassadeurs dans notre faiblesse, mais avec foi. Et nous voulons te suivre. Seigneur, nous te prions enfin que tu nous aides à aimer ta parole et ta volonté plus que notre propre vie. Et quand nous disons notre vie, nous pensons aussi à tous nos biens, tout notre confort. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer et aimer ta parole et ta volonté plus que toute autre chose. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus qui nous a laissé ce bel exemple. Et qui nous dit que si lui l'a fait, nous pouvons le faire aussi. Au nom de Jésus, amen.
Bonjour, je partage avec vous les annonces. Demain soir, on a le conseil qui se retrouve avec les deux premières commissions qui se rencontrent. Commission culte et croissance spirituelle et ensuite la commission jeunesse. Mardi, ce sont les cellules. Alors pour GEC, c'est chez Didier Loredan. Pour Prefsin, c'est chez Emmanuel et Rebecca. Et puis c'est chez Pierre et Déborah pour Collonges, Perron, Farge. Jeudi, la reprise de la chorale. Alors c'est une reprise, c'est intéressant parce que si vous voulez rejoindre la chorale, c'est peut-être le bon moment. Le concert de Noël est fini. On va se préparer pour chanter probablement deux chants pour le culte en commun qui aura lieu le 15 mars. Donc, avis aux amateurs, si vous voulez rejoindre la chorale, c'est le bon moment. Samedi, club d'enfants. Alors, il y a deux petits papiers pour les invitations. Un plutôt pour les garçons, un plutôt pour les filles. Sur lequel vous pouvez marquer le prénom de l'enfant à qui vous remettez cette invitation. Samedi, oui.
Et la date
à laquelle a lieu le club d'enfants. Samedi, il y a aussi une sortie du groupe de jeunes. Donc rendez-vous, enfin les jeunes seront concernés, auront l'information, rendez-vous probablement vendredi soir. Pour démarrer tôt cette journée, vraiment tôt. Hein. Dimanche prochain, le culte, ici dans cette salle, à 10h30. Le samedi 31, il y a une conférence pour femmes qui est organisée, comme un petit peu toutes les années, dans le cadre d'une association « Tu es précieuse ». Si vous voulez des informations, vous les dames qui pourriez participer, N'hésitez pas à me contacter ou bien à contacter des personnes du club, du Femme Club. Je vous rappelle aussi notre assemblée générale qui aura lieu le mercredi 4 février. C'est donc l'assemblée générale ordinaire des deux associations. Les convocations ont été envoyées. Ceux qui ont des adresses e-mail les ont reçues. Pour les autres, ça viendra peut-être un petit peu plus tard par voie postale. Sinon, continuons de penser à Audrey. Il lui faut de la patience. Rebecca me disait, lorsqu'elle marche peu, ça va mieux, elle a moins mal, mais dès qu'elle bouge un petit peu plus, les douleurs reviennent. Donc, continuons de penser à elle. Pensons aussi au papa de Rebecca, Eric. Eric qui a été opéré vendredi d'une importante opération du côlon. Une opération qui était prévue de durer 3 heures et qui en a duré 8. Pour l'instant, il n'y a pas encore de précision de la part des médecins, mais que ça ne nous empêche pas de prier pour lui, de le remettre dans nos prières et de penser à lui, ainsi qu'à Pierrette, aussi son épouse. Continuons de penser aussi à Guylaine. Guylaine qui est toujours près d'Annecy, dans une maison de repos de convalescence. Il est prévu que Guylaine rentre demain. Donc, c'est pas rien aussi le retour après, sauf erreur, 3 semaines. Donc, pensons à elle, pensons aussi à Jacques, son époux. Cette semaine, on vous invite à prier pour le Soudan. Comme chaque semaine, on vous invite à prier pour un pays qui est dans l'index mondial de persécution. Cette semaine, c'est pour le Soudan. On a la chance ce matin d'avoir Jean-Daniel parmi nous. Le retourne, mais j'avais quand même envie de lui laisser la parole pour qu'il nous donne 2-3 nouvelles du collège, des nouvelles brèves, mais c'est pas forcément évident. Hein.
Bonjour à tous. Vraiment, on veut vous bénir tous pour votre obéissance, justement. La parole nous dit de prier les uns pour les autres, de nous porter par la prière, parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et on veut remercier votre obéissance dans la prière pour notre famille, pour notre école, pour l'école que Dieu nous a confiée, c'est différent, pour ces jeunes qui sont en train de se construire, mais également pour votre générosité. Raymond nous a transmis le don que l'Église nous a fait. Pour être très concret, le don correspond à l'achat, ça a été fait de 10 tonnes de ciment. Et ces 10 tonnes de ciment, pour être encore plus concret, donneront 8000 briques, qui, pour être au bout de la chaîne, permettront de construire donc une partie du foyer des jeunes filles que nous sommes en train de construire pour accueillir une centaine de jeunes filles. Maintenant, je vais vous donner 3 petites nouvelles. D'abord, la famille. La famille va très bien, elle vous salue, elle vous embrasse. Je regrâce tous les jours à Dieu pour l'excellente épouse que Dieu a mise à mon côté. Vous savez que la Bible dit que si on est tombé sur la bonne épouse, c'est la couronne de son mari. La femme, c'est la couronne de son mari. En souriant avec tante Hélène dans la voiture, je lui disais, des fois, ça peut être aussi la carie des os. Ça dépend si vous avez fait le bon choix ou pas. Mais moi, je rends grâce à Dieu pour mon épouse, vraiment, qui est une perle, qui s'engage à fond avec les enfants, avec les filles, qui gère non seulement les finances, mais beaucoup les relations humaines autour de l'école, et qui enseigne vraiment les filles dans la parole de Dieu. Coraline nous a rejoint au collège. Elle a sauté le CM2 pour rentrer directement en 6e. Elle est à l'internat. Elle a demandé l'internat, où elle vit en communauté avec des sœurs, parce que l'école, c'est vraiment une famille. Et on rend grâce à Dieu également, parce que ben, même en sautant une classe, elle est dans les 5 premiers de la classe. Donc ça se passe bien, elle a quasiment 16 de moyenne. Ilian est en CM2, ça se passe bien. Et la petite Manu, qui est en moyenne section, pète le feu. Elle est totalement bilingue, français, moré. Enfin vraiment, c'est une grâce d'avoir des enfants tels que les nôtres. Si on prend l'exemple de l'école, on ne peut que rendre grâce à Dieu aussi. On a 126 élèves encore cette année sur 4 classes. Et l'an dernier, on a présenté notre première session d'examen. Certains ont peut-être reçu la lettre de nouvelles. Sur les 29 élèves, les 29 l'ont eu. Le taux national est de 28% de réussite. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et pour notre première promotion, on a eu le premier national avec 18,25 de moyenne générale, qui a été félicité par le ministre même. On a été reçu par le ministère. Et ça, c'est aussi la grâce de Dieu et c'est un moyen de témoigner puissant que Dieu change les cœurs et change les vies. Troisièmement, notre nation, notre pays. Vous savez qu'on a connu des changements politiques et des troubles. On parlait ce matin des épreuves. Oui, mais autant de l'épreuve, justement, il ne faut pas s'étonner. Dieu nous dit, autant de l'épreuve, réjouissez-vous. quand vous êtes persécuté à cause de mon nom, quand on vous fait cherche des poux dans la tête, ou même quand il y a un changement politique, de toute manière, c'est lui qui est en contrôle. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Souvent, on cherche les regards des hommes, on cherche des solutions humaines, alors que notre Dieu est avant tout spirituel. Et pour vous donner un exemple concret, l'Église a senti que c'était en train de venir au Burkina. Et je vous assure que la plupart des Africains nous disent, si ce n'était pas le Burkina, au bout de 3 jours, ça ne pouvait pas s'arrêter. Le changement de régime a duré 3 jours, un pouvoir en place depuis 27 ans, avec un système de corruption généralisé. Pourquoi ? Parce que les chrétiens se sont mis à genoux. Avant, il y en a eu 40 jours de jeûne et de prière pour la nation. C'est une obéissance aussi à la parole de Dieu, priez pour vos autorités. Ce qu'on fait au Burkina, on peut le faire en France, on doit le faire dans chacun de nos pays, de chacune de nos nations. Et ce n'était pas un coup d'État, mais ce renversement de régime n'a duré que 3 jours. Et au bout de 3 jours, tout s'est arrêté, la vie a repris son cours comme si de rien n'était. Ça, c'est la grâce de Dieu. Concrètement, au collège, nous, on avait une chaîne de prière continue. 24 heures sur 24, chaque heure, un surveillant, un responsable, un groupe de jeunes de prière priaient tous les jours pendant 30 jours. Et on a demandé encore à nos jeunes de commencer au mois de janvier, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on ne parle plus du Burkina, tout est réglé. Il y a une montée du radicalisme musulman islamique qui est en train de faire des ravages chez nous. Et véritablement, vous avez vu ce qui s'est passé hier, rien qu'au Niger voisin, on n'a jamais entendu de révolte comme ça au Niger, qu'un pays plutôt stable et modéré. Mais hier, ils ont brûlé une vingtaine d'églises, attaqué les biens des Européens, de tout ce qui ressemblait de loin ou de près à l'Occident. Cette radicalité, vous l'avez vécue la semaine dernière en France, c'est quelque chose qui aujourd'hui est en train de se mettre de plus en plus en place. Et je voudrais vous rappeler qu'on est dans un combat, on est dans les temps de la fin. Ce combat, il n'est pas charnel, il est spirituel. Et Dieu nous demande vraiment de ployer les genoux maintenant, parce que ce combat, nos frères musulmans, ça reste que nos frères, ce sont des créatures de Dieu. Simplement, ce voile est toujours devant leurs yeux. Ce voile n'a pas été déchiré. Prions pour eux, prions vraiment pour que le Saint-Esprit conduise ces hommes et ces femmes à prendre conscience que Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est amour. Et ce grand Dieu, il est en nous. Et vraiment, je ne vais pas être plus long, mais continuez à prier les uns pour les autres, continuez à intercéder. Ne croyez pas que ce qui se passe, c'est lointain. Vous l'avez vu, ça s'est rapproché directement en France, ça peut arriver partout demain. Cette radicalité de l'islam, elle est là. Ne cherchez pas à la combattre par la bagarre, par les armes naturelles, mais par la prière, par la proclamation. C'est notre rôle et le Saint-Esprit fera lui-même le travail dans le cœur des gens. Que Dieu vous bénisse et puis j'espère une fois avoir plus de temps avec vous. Mais en tout cas, tous les enfants du collège prient pour vous. Tous les enfants du collège vous aiment, ils vous connaissent. Il y a eu déjà des gens qui sont passés. C'est tonton Raymond, il y a eu papy Michel, mamie Hélène. Enfin, chacun a son petit nom quand ils viennent. Et les Richards aussi qui sont venus nous voir, c'est une grâce, une bénédiction. En tout cas, la porte est grande ouverte pour tous ceux qui voudraient venir nous visiter. Soyez richement bénis.
Merci Jean-Daniel. C'est vrai que vous restez dans notre cœur et dans nos prières aussi. Toute petite dernière annonce. Je vous rappelle l'endroit où il y a un tas de prospectus au fond de la salle. On n'en parle pas beaucoup, mais sachez que lorsqu'on reçoit du courrier, je tiens un jour. De temps en temps, j'élimine aussi les anciens, enfin, les anciens papiers. Prenez du temps pour regarder et pour vous tenir au courant de ce que l'Église reçoit. Il y a plein de choses intéressantes dans ces documents. Je vous invite à vous lever. Je vais lire 2 versets pour clore notre culte. Dans 2 Thessaloniciens, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.